France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de philosophie, de sagesse, de gnose. Y a-t-il une épithète à coller à philosophie ou pas, genre philosophie islamique, ou philosophie en contexte islamique, ou en terre d'islam, ou dans l'islam avec la majuscule qui renvoie à la civilisation? En tout cas, nous parlons d'une anthologie de textes philosophiques réunis par Mathieu Terrier et Fares Gillon, qui n'est pas avec nous dans le studio, mais Mathieu Terrier est présent et je suis extrêmement heureux de l'accueillir. Mathieu Terrier, bonjour.
Khaled Bencher, bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes historien, vous méritez le titre de philosophe puisque d'aucuns disent que de nos jours on n'a que des professeurs de philosophie, mais nous n'avons pas de philosophe. Vous êtes arabisant, persanisant, auteur de nombreux ouvrages, dont au moins Histoire de la sagesse et de la philosophie, en terre d'islam, si j'ai bonne mémoire, et surtout que vous consacriez un ouvrage au monde imaginal, cet isme entre un monde dans lequel les corps se spiritualisent et les esprits se corporalisent. Mais c'est tout un débat et c'est tout un programme. Quelle a été, disons, l'idée principale qui sous-tend le fait de réunir ces textes?
C'est un livre qui a une ambition multiple et qui a une histoire, qui a une genèse. C'est d'abord conçu comme un manuel. C'est d'abord conçu comme un manuel à la fois scolaire et universitaire, c'est-à-dire qu'on le, je l'ai pensé à la fois pour les classes de terminale notamment et l'université. Classe de terminale pourquoi? Parce que j'ai moi-même été professeur de philosophie pendant de longues années, un petit peu moins de 20 ans, en même temps que je me lançais dans les études d'arabe et d'islamologie et puis de persan également. Donc ça correspond un peu au manuel idéal que j'aurais voulu partager avec les élèves pour travailler outre les textes des classiques de la philosophie européenne, enfin grecque et européenne, de Platon à Foucault. Donc manuel que j'aurais rêvé effectivement de partager avec les élèves pour intégrer, pour aborder les philosophes de l'islam ou les philosophes musulmans dans le programme de philosophie.
Donc, et vous réjouissiez du fait qu'on a adjoint, si je puis dire, oui, à Averroès, Avicenne.
Voilà.
On en a que ces deux grands noms.
Voilà.
Mais on a davantage.
Voilà. De mon époque, avec Averroès, qui était vraiment le seul à pouvoir, disons, représenter. Et puis en plus, il le représente de manière paradoxale, parce que c'est quand même une figure à part. Donc, le seul à pouvoir représenter la philosophie en islam. Donc, je me réjouis évidemment que Avicenne ait pu être joint par la suite. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres philosophes et qui mériterait vraiment d'être intégré à un programme de philosophie universelle. Alors c'est pour ça que le livre est conçu, est organisé avec un plan thématique et problématique, et puis un manuel de langue aussi. Donc comme vous l'avez rapidement mentionné, c'est vrai que je suis arabisant et persanisant, il était important non seulement, alors il était important que le livre soit bilingue, c'est-à-dire que tous les textes, donc il y en a une centaine, soient présentés en vis-à-vis une page, le texte original, la page d'en face, la traduction inédite naturellement. Donc ça c'était très important, et il m'a semblé tout aussi important d'inscrire dans ce livre des textes de philosophie en persan. Même si l'arabe demeure la langue majoritaire, ce qu'elle a été dans l'histoire comme langue savante, scientifique, philosophique en particulier, mais il était vraiment important de donner une présence, de faire une place à la philosophie en langue persane ou même en arabo-persan, parce qu'il y a des textes qui sont vraiment écrits dans un mixte des deux langues.
Une sorte de diglossie.
Absolument, une diglossie. On appelle ça le moula mar en arabe. Donc c'est la diglossie arabo-persane pour remettre aussi en question l'idée que seul l'arabe aurait été la langue savante théorique et que le persan aurait été seulement la langue poétique, littéraire, etc. Ce qui est évidemment, ça correspond à une certaine réalité, domination de la langue arabe et d'un rôle particulier du persan, mais voilà, il était important de faire place aux deux. Donc ça, c'est la première vocation du livre, qui est voilà conçu comme un manuel scolaire universitaire, multidisciplinaire. Maintenant, le livre a aussi une deuxième ambition qui est, j'oserais dire, humaniste, hein, qui est de faire entrer dans la bibliothèque des honnêtes gens, des curieux, des concernés, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, versés en philosophie ou pas, une anthologie qui se veut une anthologie exploratoire.
Le reflet du macrocosme des doctrines dans le miroir du microcosme des textes.
Oui, dans le microcosme des textes, avec l'intermédiaire qui serait justement cette civilisation, cette culture de l'islam qui relève à la fois du particulier et de l'universel. La philosophie en islam repose sur une base commune à celle de la philosophie européenne. Mais ça, c'est souvent ignoré par les non-musulmans et par les musulmans eux-mêmes. Et là, c'est presque une troisième vocation, si vous voulez, enfin à l'intérieur en fait de ce projet que j'appellerais humaniste, hein, qui est de remettre en lumière, parce que finalement pendant longtemps on en parlait, on écrivait là-dessus, et puis ça a un petit peu disparu, ce qu'on appelle l'islam spirituel, qui est ce phénomène humain et historique qui est aujourd'hui largement ignoré, refoulé, à la fois par les non-musulmans en France et par les musulmans modernes. Donc c'est à la fois la découverte d'une culture, la redécouverte d'un patrimoine ou d'un héritage historique, voilà, qu'il nous paraissait essentiel de rendre accessible en langue originale, et aussi oui. Voilà, de valoriser la langue arabe et la langue persane associée.
Et surtout, pallier des carences ou répondre à des ignorances. D'aucuns continuent à croire que la philosophie, ou du moins la production intellectuelle en islam ne fait pas partie de la matrice occidentale, ce qui est un tort.
Absolument.
Il faut savoir combattre ces ignorances. Puisque le fond est commun, surtout chez les philosophes hellénisants musulmans, mais vous dépassez le cadre de la simple falsafa qui serait la traduction arabe du mot philosophie. En évoquant l'humanisme ou l'approche humaniste, il y a aussi, nous l'avions fait avec le professeur Ouali Touati quand il parle de la réception de l'homme comme dispositif conceptuel, qu'il y a certaines idées érigées en... alors que ce sont des erreurs quasi universelles, mais dont les limites épistémiques sont ignorées, ou en tout cas pas discutées. Pourquoi avez-vous, cher Mathieu Terrier, voulu dépasser le cadre de la simple philosophie, si je puis dire, dans son sens technique ou historique, à la sagesse et à la gnose, parce que vous y ajoutiez la mystique, la théosophie soufie, parce que ça fait partie d'une réflexion, comme certains philosophes disent, dès lors que vous vous posez même la question, c'est déjà de la philosophie.
Oui, en effet, ça correspond à une conception élargie de la philosophie et originelle. La philosophie apparue en Grèce était, comme le soulignait très bien Pierre Hadot, à la fois une vision du monde et un mode de vie. Donc pas seulement une discipline qu'on qualifierait aujourd'hui d'universitaire et d'académique ou de scientifique, mais aussi une pratique, un exercice de vie, un choix existentiel. Et donc là, évidemment, on se rapproche de ce qu'on peut appeler la sagesse, la mystique, etc. Or, je crois fortement, à l'appui de mon expérience des textes, que dans la civilisation de l'islam, eh bien, des penseurs nombreux, qu'ils se qualifiaient eux-mêmes ou pas de philosophes, ou de falasifa, selon effectivement la translittération, pratiquer ce questionnement, cette réflexion sur les grandes questions spirituelles et humaines, à la recherche d'une vision du monde complète, cohérente et d'un mode de vie. Donc pratiquer vraiment la philosophie au sens antique. Et j'aurais tendance à penser, même si ça peut sembler provocateur, et vous avez cité la phrase de Thoreau, il n'y a aujourd'hui que des professeurs de philosophie et plus de philosophes, j'aurais tendance à penser, même si ça peut sembler provocateur, que beaucoup de penseurs en islam, à toute époque, et parfois sans se considérer comme des philosophes, pratiquaient la philosophie de manière plus fidèle ou plus proche au concept originel que beaucoup de gens qui se prétendent philosophes, en particulier à l'époque contemporaine.
Parce que la cogitation philosophique s'accompagne généralement d'une transformation de l'âme par le questionnement.
C'est ça. Et là, on arrive à la notion de gnose, ce qu'on appelle gnose. Alors, il y a un sens. Voilà, le Refan en arabe. Alors, c'est mais on parle de gnose au sens où en parlait le grand savant Henri Charles Puech, comme effectivement d'une connaissance transformatrice et salvatrice. Et ce que Fares Gillon et moi appelons la philosophie en islam, c'est cette recherche d'une connaissance transformatrice et salvatrice, une connaissance non seulement rationnelle, intellectuelle au sens strict, mais aussi spirituelle ou mystique, puisque, et c'est presque un leitmotiv de Ikhwan al-Safa, les frères de la pureté, jusqu'à Molla Sadra au XVIIe siècle, que la connaissance démonstrative et rationnelle, donc ce qu'on appelle communément et en un sens étroit la philosophie, culmine ou aboutit à une réalisation spirituelle, à un tahqiq, ou à une gustation spirituelle, le zaouk, ou une contemplation directe, ou shahada, donc des notions qui sont aussi très présentes dans le soufisme. Alors, pourquoi
ou
en
même
fait
la
aussi,
théosophie.
Voilà, et même la théosophie. Alors, on parle de théosophie souvent pour se référer à la doctrine de l'école du Cheikh Al-Akbar, voilà, Ibn Arabi. Alors, je pense qu'on parle de théosophie à la fois pour ne pas parler de philosophie et pour ne pas parler de théologie, donc c'est une sorte un peu de mauvaise.
C'est une sorte de traduction de Hikmah Ilahiyah,
oui,
qui est une sagesse divine,
absolument,
en quelque sorte.
Hikmah Ilahiyah, qui se trouve aussi dans d'autres, chez d'autres auteurs. Alors, c'est cette notion de Hikmah, justement, qui est tout à fait essentielle. Là, j'en reviens à ce que je disais sur le sens originel. La philosophie grecque, c'était bien une recherche de la sagesse, un désir, une recherche de la sagesse. Alors, il se trouve justement que la philosophie en islam, en langue arabe, a été nommée falsafa, mais a aussi été nommée hikmah, sagesse. Comme si, donc, on confondait la philosophie et son idéal, son but, ce qui a amené, en fait, les philosophes en islam à aspirer réellement et très sérieusement à atteindre la sagesse. Or, la hikmah, en islam et en arabe, c'est un attribut divin, c'est un terme coranique. Al-Hakim, c'est un des plus grands noms de Dieu. Et donc, cette recherche de la sagesse, de la hikmah en islam, voire même cette philosophie qui s'identifie à la sagesse, est une entreprise d'assimilation à Dieu, d'imitation de Dieu, selon la fameuse formule de Socrate dans le Théétète, hein, ce qu'il faut c'est fuir d'ici là-bas et s'efforcer de ressembler à Dieu dans la mesure du possible. On peut s'étonner qu'une telle formule ait été adoptée en islam, strict monothéisme, Dieu
moyennant
n'a pas d'égal, etc.
Un jeu de mots qui est plutôt ta'alluh. Qui est une sorte d'auto-déification.
Eh oui, mais c'est d'autant plus fort qu'on a justement la racine, c'est vraiment sur la racine de Allah. Donc ta'allou, littéralement, c'est se faire Allah. C'est quand même se faire Dieu divin. Bien sûr qu'il y a tout l'écart entre le ta'allou et la ilahiyya, proprement parlé, est maintenu. Mais il y a quand même, voilà, dans toute cette, presque dans tout ce corpus, je dirais, cet effort, ce projet qui peut nous paraître assez démentiel et qui peut paraître tout à fait hétérodoxe, hérétique. On se demande comment tous ces penseurs n'ont pas été fouettés, pendus, écartelés. Or, seuls quelques-uns l'ont été, sans avoir dit, mais enfin, pas d'ailleurs pour cette raison-là. Oui. Donc, il est aussi intéressant là de montrer que la philosophie en islam et la poursuite de ce projet, qui à mon sens est le projet originel de la philosophie, et que cette philosophie, on va y venir, mais elle est bien en islam. On pourrait même dire, elle est islamique, elle fait sens en termes d'islam, alors que on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit tout à fait extérieure, étrangère, bannie, voilà.
Ici, je reviens à une idée d'Alexandre Coiré, oui. C'est que une surdétermination des problèmes philosophiques et scientifiques par un questionnement théologique, in fine. Et donc, c'est ce qui a dû se passer très tôt en contexte islamique et dès le tournant du 8e siècle, lorsque les premiers théologiens rationalistes voulaient, si je puis dire, sauver une théodicée d'un Dieu bon et juste. Donc, il ne punit pas comme ça s'il... déterminer les gens dans leur... Il les contraignait, donc il laisse l'homme libre.
Voilà, absolument. La question de la liberté, la question de la justice divine. Donc là, effectivement, vous mentionnez une question alors qui fait d'ailleurs objet d'un chapitre dans le livre, qui est le problème du mal. Parce qu'effectivement...
Et qui n'est pas abordé d'un point de vue moral, mais d'un point de vue plutôt philosophique.
D'un point de vue métaphysique. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la question du mal, là, vous avez évoqué les Mu'tazilites, en fait. Enfin, les théologiens Mu'tazilites en particulier, qui effectivement rationalisait la foi pour garantir la justice divine d'un point de vue rationnel, ce qui impliquait pour eux, à juste titre à mon avis, la liberté de l'homme. Il est vrai que les philosophes qui sont abordés ici, depuis Avicenne jusqu'à Mirdamad en Iran Safavide, abordent le mal d'un point de vue éthique, mais surtout en amont d'un point de vue vraiment métaphysique. C'est-à-dire comment la création peut-elle faire une place au mal, à la négativité, à la laideur, à la maladie, à la mort, etc. Ce qui, au passage, rejoint une vieille interrogation auquel répondait notamment la religion du mazdéisme. C'est effectivement une question théologique ancienne, qui n'est évidemment pas propre à l'islam, mais qui effectivement rencontre, enfin, ces questions théologiques qui sont posées dans le cadre islamique, se croisent avec l'héritage grec, l'héritage des problèmes posés en Grèce antique, notamment la relation entre l'homme, la cité, enfin entre le monde, la cité et l'âme. Voilà, les correspondances entre les trois niveaux, la question du bonheur, la question de l'éthique, donc étaient des questions fondamentales dans la philosophie grecque. Et donc, effectivement, il y a ce double héritage, on peut dire, enfin, en tout cas, cette rencontre entre l'héritage problématique et conceptuel grec et puis les questions théologiques et spirituelles qui se sont posées en islam dans le kalam, la théologie dialectique, dans le soufisme et dans les autres écoles. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport à votre question sur la mystique et la gnose, c'est que le terme de falsafa dans l'histoire des idées en islam désigne en fait une école de pensée. Et ça, si on voulait faire un équivalent, disons dans l'histoire de la philosophie occidentale, on parlerait d'une école de philosophie, mais pas de la philosophie dans son ensemble.
Et donc, de ce point de vue-là, lorsque Al-Razali, l'Al-Ghazal, veut réfuter, quand il parle de la réfutation des philosophes, c'est pas tant la philosophie en tant que telle, mais cette école-là, celle des falasifas.
Cette école-là, voilà, l'école des falasifas, et même précisément quelques thèses de cette école des falasifas.
Les matérialistes, on aurait pu dire.
Voilà, la thèse de l'éternité du monde, l'impossibilité de la résurrection des corps, l'impossibilité pour Dieu de connaître les particuliers, c'était les trois points.
D'aucuns ajoutent que même cette réfutation est faite en philosophe, ce qui le concerne lui-même. Donc,
oui, et l'influence de la philosophie sur Al-Razali est de toute façon tout à fait évidente, et effectivement sa critique de la philosophie, d'une manière générale, est philosophique. Dans l'introduction, on a cité cette phrase attribuée à Aristote, mais disant si on veut réfuter la philosophie, il faut faire de la philosophie. Si on veut démontrer qu'il ne faut pas philosopher, il faut philosopher pour démontrer qu'on ne peut pas philosopher. Et effectivement, que ce soit Al-Razali, même Sohrawardi, fondateur de l'école de l'Ishraq, l'illumination, mais qui a des critiques sévères à l'égard du rationalisme ou de l'aristotélisme, ou d'autres, ou Ibn Arabi lui-même aussi, on sent bien qu'il a lu des philosophes, mais il est critique vis-à-vis de la démarche philosophique. Mais c'est une critique du rationalisme.
Ce qu'il veut passer de la dialectique démonstrative à l'inspiration, à l'énonciation et à inspirer.
C'est ça. Les critiques de la philosophie en islam, voilà, je parle pas des juristes et de ceux qui font du takfir, de l'anathème, mais vraiment des critiques. Les critiques de la philosophie en islam sont des critiques de l'idée que la raison raisonnante suffirait pour répondre à toutes les questions et atteindre toute la vérité, et d'autre part sont des critiques d'une pensée spéculative qui justement ne se transmue pas en transformation de soi et en expérience spirituelle. Donc voilà, c'est une critique de la philosophie qui vise à dépasser la philosophie, mais à faire que la philosophie se dépasse elle-même. Et je fais souvent référence à des penseurs évidemment, comme Nietzsche ou Wittgenstein, qui étaient des grands critiques de la philosophie, qui n'en sont pas moins, et même qui n'en sont que plus, de grands philosophes.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de philosophie au sens large dans les contextes islamiques, philosophie en islam, philosophie en terre d'islam, peut-être pas encore philosophie islamique mais nous le verrons avec vous, cher Mathieu Terrier, tout au long de cette émission, arabisant et persanisant. Rien qu'à ce sujet, c'est que on pense, plus ou moins pour ceux qui sont éclairés, et je ne le dis pas selon la vieille boutade que les gens sont éclairés lorsqu'ils pensent comme nous, donc c'est que la langue arabe pouvait se prêter, sans trop de néologisme, sans trop de nomenclature lourde, à l'abstraction philosophique, alors que le persan, c'est plus pour la poésie. Mais on trouve que c'est possible aussi qu'en langue persane, on peut aller vers des concepts philosophiques. Cette broderie entre l'arabe et le persan. Alors, pourquoi je parle de broderie? Parce qu'en Occident musulman, quand il y avait du judéo-arabe, on parlait plutôt de broderie, de matrouz. Alors que là-bas, c'est
talamoulamah.
Quelque chose qui brille.
Oui, qui est chamarré. Qui est...
Alors, pour cette deuxième partie, si vous pouviez nous dire, dans votre anthologie que vous avez choisie avec Fares Gillon, quels sont, en gros, les grands jalons, les grands thèmes, les grandes idées ou même les grands textes? On peut s'attendre à ce que vous ayez choisi quelque chose qui relève de l'ontologie, déjà, de l'être, du non-être, des réflexions de cet ordre. Alors, vous avez évoqué le triptyque, le monde, la cité, l'âme. Qu'est-ce qui en fait pendant? Quels sont les philosophes, au sens large, qui réagissent?
Alors, vaste question. Alors, effectivement, dans le plan de l'ouvrage, il y a une première partie qui est consacrée effectivement à ces questions d'ontologie dont vous parlez, donc l'être, le non-être et le temps. Enfin, l'être, le non-être et l'existence, mais la question du temps a une importance.
Pour le temps, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les philosophes d'expression arabe, souvent musulmans, parle de métatemporalité.
Absolument.
Et c'est quelque chose qui leur est propre.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs ça peut correspondre à ce concept de monde imaginal qui est aussi un intermédiaire entre le monde sensible, le monde intelligible, et qui est aussi propre à ces philosophes. Oui, l'idée d'une sempiternité. Enfin, on a toujours des problèmes pour traduire cette notion de dahr, qui est effectivement entre la temporalité naturelle, la temporalité du monde naturel, la durée du monde naturel et l'éternité absolue de Dieu.
Dans laquelle, enfin la temporalité dans laquelle les catégories type avant et après s'appliquent, alors que dans l'autre cas, avant et après n'a pas de sens.
N'a pas de sens, alors dans l'éternité ça n'en a pas du tout, et dans la sempiternité ou dans le dahr, ou le métatemps effectivement, ça a une signification ontologique, mais pas chronologique. Et en fait d'ailleurs, je pense que l'origine de cette conception original et effectivement qui est très représentatif parce qu'on en trouve la première esquisse, c'est Avicenne, le Cheikh Raïs, et on trouve un peu l'aboutissement de cette doctrine du métatemps ou de la création métatemporelle du monde chez Mir Damad au XVIIe siècle. Et donc c'est vraiment quelque chose qui traverse toute l'histoire de la pensée en islam, je crois, parce qu'il y a en plus des développements après Mir Damad. Donc oui, je disais l'effort, je pense, consistait à réconcilier l'aristotélisme et le néoplatonisme, dans lequel la création, l'émanation de Dieu, puisque c'est pas du créationnisme et de l'émanationnisme, donc là l'effet ne se détache pas de la cause, et donc il ne peut pas y avoir une existence de la cause précédant temporellement l'existence de l'effet. C'est comme le soleil et sa lumière, le soleil est bien la cause de ses rayons, mais le soleil ne peut pas exister avant et indépendamment de ses rayons, qui n'existent pas non plus réellement séparés de lui. Et donc c'est l'effort de concevoir cette inséparabilité de la création et du créateur, et en même temps voilà de maintenir même le modèle d'un Dieu supérieur à sa création. Et donc Dieu ne peut pas être tout à fait séparé de sa création, le monde ne peut pas être tout à fait détaché du créateur, et néanmoins il faut une distinction, d'où ce travail spéculatif effectivement sur la durée propre à la création et aux intelligibles, finalement une temporalité propre au monde intelligible. Parmi les autres parties de l'anthologie, alors il y a une partie sur l'homme et son agir qui reprennent en fait des thématiques assez connues en philosophie, notamment celle de l'homme et de la cité, ou de la liberté et l'agir, avec un chapitre sur le désir et l'amour qui est assez important pour moi, parce que d'une part le thème de l'amour, même si on le connaît dans la poésie et notamment la poésie persane, mais on peut être assez étonné de le voir développé dans des textes philosophiques, théoriques en islam, et puis là aussi parce que, comme la question du mal qu'on a évoqué précédemment, ce thème de l'amour n'est pas seulement abordé d'un point de vue psychologique ou éthique ou existentiel, mais aussi vraiment d'un point de vue métaphysique, quoi, comme une force, une énergie, un principe métaphysique, cosmique, psychologique, enfin qui vraiment traverse tout le monde de l'existence. Ça aussi, ça trouve son origine chez Avicenne.
Ce qui pourrait jouer comme rôle du regard. Lorsque l'essence divine se reflète dans l'univers créé, c'est l'équivalent de l'amour.
C'est ça. Ce qui amène d'ailleurs les penseurs akbariens de l'école d'Ibn Arabi, ou même inspirés, influencés par cette école, sans être à proprement parler des akbariens, mais
relatif au Cheikh Al-Akbar,
voilà,
docteur
relatif
Maximus.
Au Cheikh Al-Akbar, Ibn Arabi. En tout cas, ce qui amène, mais Ibn Arabi, dont la pensée a eu une influence considérable et bien au-delà de ses disciples et commentateurs. Et c'est d'ailleurs remarquable comment la pensée d'Ibn Arabi devient une espèce de bien commun, comme le platonisme ou le néoplatonisme, chez des penseurs philosophes, chiites ou pas, jusqu'en Iran safavide. Donc bref, l'idée que tout ce que l'on peut aimer ici-bas, y compris des belles jeunes filles ou des beaux jeunes garçons, y compris l'argent ou d'autres biens tout à fait terrestres, en fait, en aimant tout cela, on n'aime que Dieu. Finalement, on n'aime que Dieu et tout ce qui peut être aimé de beau revient à aimer la beauté de Dieu. Voilà. Et même, en réalité, à ce que Dieu sème lui-même à travers l'amour de ses créatures pour d'autres créatures.
Je ne pensais pas que j'allais vous poser cette question, mais le cas spécifique d'Ibn Arabi, c'est que c'est aussi son propre amour pour la fille du moufti de la Mecque, Harmonie, elle s'appelait comme ça. Et donc, d'aucuns disent que c'est cet amour-là pour la fille du moufti de la Mecque qui l'a poussé à composer son fameux interprète des désirs ardents.
Interprète des désirs ardents, oui.
Donc, l'amour, donc. Et pour le faire passer, il dit, donc, même l'amour humain, est aussi participatif, si ce n'est consubstantiel, à l'amour divin.
À l'amour divin, c'est ça. Donc c'est toujours Dieu qui s'aime lui-même, en fait. L'exemple que vous donniez nous rappelle, on en parlait avant de commencer cette émission, que le plus particulier, l'expérience la plus particulière ou la donnée la plus particulière traitée en philosophie, on va dire, ou traitée en philosophe, devient un écho ou une participation de l'universel. Et que, effectivement, c'est d'ailleurs l'exemple que vous avez donné, Ibn Arabi lui-même, en tout cas, ça n'est pas mentionné dans les textes que nous avons. En revanche, on a bien sûr le personnage de Majnoun et de sa Leïla. Et voilà, de cet amour particulier d'un poète bédouin dans le désert, il y a des siècles et des siècles, est emblématique de toute cette question spirituelle, universelle de l'amour et de l'aimer. Leïla étant le symbole, finalement, de tout ce qui peut être aimé de beau et de divin.
Notre petit échange là, en marge du sujet même de l'émission, c'est que, et qui y revient, ouais, c'est que là, la philosophie en contexte islamique a assurément une dimension sapientielle.
Absolument.
Et donc, il y a de la philosophie au sens connu, désormais consacré, de la sagesse et de la mystique.
Oui. Oui, et ça rejoint ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que réellement, en islam, la hikmah est non seulement un but, mais c'est un but qui est poursuivi en étant pratiqué. Donc, c'est pas seulement un idéal ou un horizon, c'est réellement quelque chose qui est pratiqué, qui est goûté. Et donc, effectivement, il n'y a pas de différence fondamentale à faire entre la philosophie et la sagesse. Et c'est pourquoi, effectivement, un penseur comme Ibn Arabi, non seulement a toute sa place, mais a eu toute son influence sur des penseurs qui après peuvent être nettement considérés comme des philosophes. Alors vous questionniez sur les thèmes et les auteurs, donc sur les thématiques propre. J'ai parlé rapidement de cette ontologie et des questions éthiques. Ce qui me semble important, c'est de souligner, vous avez mentionné le livre de mon professeur et ami Ouari Touati, ce qui me paraît important de souligner, c'est la place de l'anthropologie dans cette ontologie et dans ce corpus. L'anthropologie, non pas au sens technique, mais vraiment au sens premier, la théorisation, la conceptualisation de l'homme, de ce qui est humain, et une anthropologie qui est généralement une cosmo-anthropologie, puisque le thème vraiment récurrent et très puissant de beaucoup de ces textes, c'est cette homologie, cette analogie-homologie entre l'homme microcosme et le monde macranthrope, grand homme, analogie qui peut se retourner puisque l'homme lui-même en fait peut devenir un macrocosme et le monde finalement être considéré comme une sorte de micranthrope, de petit homme. Donc ça c'est un thème qui est très important et d'ailleurs je dois dire, ça rejoint la question de la poésie, de la langue persane et de la poésie, que ces thématiques philosophiques comme l'homme microcosme ou comme le monde imaginal dont on a rapidement parlé, ces thématiques philosophiques, elles ne sont pas seulement développées dans des ouvrages philosophiques et dans une langue philosophique, que cette langue philosophique soit arabe ou persane. Ces thématiques philosophiques, cette philosophie a aussi été diffusée dans la culture de l'islam à travers les siècles, l'islam pré-moderne, diffusé à travers la poésie, et en particulier à travers la poésie persane. Poésie persane qui s'écrit, qui se récite, qui se déclame, qui s'écoute, qui se chante, et qui s'écoute pas seulement en Iran, même en Iran classique qui dépasse les frontières de l'Iran actuel, mais langue persane, poésie persane, qui se déploie des Balkans jusqu'au Bengale, pour citer le livre de Shahab Ahmed, « Qu'est-ce que l'islam ?», qui accorde une grande importance à cet ensemble historique des Balkans au Bengale. Et à travers la poésie persane, c'est toute une philosophie qui s'est diffusée. Quand on voyage aujourd'hui en Iran, on entend des gens très simples, chauffeurs de taxi, etc., parler de philosophie, avoir des concepts philosophiques. Et non pas parce qu'ils ont lu des philosophes, mais par cette présence extrêmement vivante de la poésie persane dans les couches populaires du monde musulman.
Et ceux qui ont lu et étudié la philosophie, et contrairement à ce qu'a pu dire un Ernest Renan, oui, les penseurs musulmans ou les philosophes musulmans, dans le sens que vous précisez, ont été instruits des doctrines physiques, métaphysiques, éthiques, des pré-socratiques.
Tout à fait.
Ils ont lu et étudié Pythagore, Empédocle, Thalès, Anaxagore, et tout comme d'ailleurs ils étaient familiers de l'école stoïcienne, d'un Zénon. Ou d'un Chrysippe ou d'autres, ou de l'école épicurienne. Ils étaient sensibles à l'atomisme d'un Démocrite, par exemple. Ils ont lu Diogène. Donc, dire qu'il n'y a pas de philosophie ou il n'y a pas une filiation ou un héritage et que les penseurs musulmans ou les philosophes hellénisants musulmans ne sont pas légataires de ce qui fait la matrice de la philosophie en Occident, est soit un non-sens total, soit une ignorance, soit une volonté de réduire. Alors, il y a quelqu'un qui est encore en vie et que je ne citerai pas, qui dirait que on a jeté Averroès dans les poubelles. On a récupéré Averroès des poubelles de l'islam.
Oui, absolument. Voilà. Alors ça c'est l'idée. Merci de l'évoquer. Je ne nommerai pas non plus. Mais alors, pour revenir rapidement sur
Nous nommerons pas parce que nous ne sommes pas dans la surchauffe, la surréaction.
On est bien dans une discussion d'idées, d'une lecture de l'histoire, enfin d'une compréhension de l'histoire. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les pré-socratiques, ça me fait plaisir parce que bon, il y a un texte d'Al-Amiri dans l'anthologie qui justement nous explique que ces philosophes anciens étaient initiés à la niche aux lumières prophétiques, Miskat Anwar al-Nubuwa, référence au fameux verset de la lumière 24-35, soit 24 verset 35. Vous avez eu la bonté au début de l'émission de mentionner mon premier ouvrage qui s'appelait Histoire de la sagesse et philosophie chiite, qui est la traduction d'un ouvrage qui est effectivement une histoire de la sagesse et d'un philosophe chiite du XVIIe siècle qui rapporte toutes les maximes des Anaxagore, Pythagore, Démocrite, Diogène le Cynique, etc. Et on voit justement quelle est l'actualité de ces sagesses, de ces penseurs pré-socratiques en islam pré-moderne et du début de la modernité. Donc c'est tout à fait impressionnant. Alors, ce que vous disiez effectivement sur le... Donc sur l'héritage grec, c'est tout à fait évident. Oui, ce que vous avez mentionné derrière moi, ça fait partie des... J'ai dit au début de mon intervention, de ma communication, que le livre avait trois ambitions. Il y avait une ambition... Enfin, qu'il en avait plusieurs. Donc, il y avait une ambition pédagogique, une ambition que j'ai appelée humaniste. Mais il y a aussi une dimension qui est... C'est un ouvrage, et là, c'est vraiment un partage avec mon ami Farès Gilon. C'est un ouvrage engagé, et c'est un ouvrage engagé pour une certaine idée de la philosophie en islam. Ce qui implique, on en a parlé, une certaine idée de la philosophie, mais aussi une certaine idée de l'islam. Parce que finalement, si on... Voilà. Donc, il s'agit notamment... Là, vous avez mentionné Ernest Renan, et on ne peut pas ne pas le nommer. Il s'agissait notamment de tordre le cou à l'idée que la philosophie en islam aurait pris fin après Averroès, ce qui est effectivement la thèse de Renan, mais aussi que la philosophie en islam, en fait, ne serait qu'hellénistique et pas islamique. Et qu'en fait, elle serait philosophie dans la condition où, justement, elle n'est pas islamique, et que précisément, ce qui a été rejeté par l'islam aurait été donc récupéré par l'Occident latin. Ça veut dire que la philosophie ne ferait pas sens en termes d'islam, qu'elle aurait pu, par hasard ou par miracle, disons, subsister, mais comme un accident de la civilisation musulmane. Et donc ça veut dire, pas à contrario, mais ça veut dire de manière équivalente, que l'islam ne serait que chariatique, qu'une religion de la loi, et aucunement un espace de spiritualité, et que l'islam serait fondamentalement hostile à la philosophie, ce qui ferait que la philosophie serait foncièrement séparée ou exclue de l'islam. Et là, je pense que on n'argumente pas le contraire uniquement par des faits historiques, je pense que ce sont ces textes qui démontrent le contraire.
Et qui montrent qu'en aucun cas et d'aucune manière, l'islam n'est réductible.
C'est ça.
Au droit, fut-il savant.
Voilà, tout à fait. Il y a une espèce de... à la fois du malentendu et d'une, comment dire, d'une espèce de collusion d'intérêts assez suspecte à mon avis, entre une partie, disons, de la tradition islamologique ou académique sur l'islam jusqu'à aujourd'hui, qui identifie l'islam à la charia, à la religion de la loi et au fiqh, donc le droit.
Et même le mot, le concept de charia, avec oui. toutes ses nuances, oui. est réduit comme un repoussoir de nos jours.
Absolument, bon, ça... absolument, parce que quand on voit la charia chez Ibn Rushd à Averroès, quand il parle de la charia, c'est autre chose.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le professeur Mathieu Terrier, chercheur au CNRS, auteur de nombreux ouvrages, dont d'ailleurs l'histoire de la sagesse et la philosophie chiite, et surtout un fin connaisseur du monde imaginal, qui n'est pas le monde imaginaire. Pour cette dernière partie, cher Mathieu Terrier, j'aurais à la fois une question précise, et puis peut-être j'engagerai avec vous un débat sur l'épithète islamique, hellénistique qu'on pourrait accoler à philosophie. Mais d'abord la question, comment se fait-il que deux grands noms dont vous avez cité l'un d'eux, Mir Damad et Molla Sadra Shirazi, eux, de grands métaphysiciens ou philosophes, ignoraient un Descartes ou un Leibniz ou leurs contemporains, et ceux-ci les ignorent aussi. C'est curieux.
Oui, ça c'est tout à
pourtant,
fait.
Pourtant, on était à une période où, du moins, la communication n'est pas instantanée comme maintenant, mais c'est quand même un fait curieux de l'histoire.
C'est un fait tout à fait curieux. Moi, je n'ai pas d'explication évidemment définitive là-dessus, mais
et pourtant la production.
En revanche, c'est un fait que je voudrais souligner.
D'Amir Damad et d'un Molla Sadra, c'est une production extraordinaire.
Et tout à fait monumentale. Et effectivement, on n'a rien à envier. Enfin, je dirais tout à fait comparable à la production d'un Spinoza ou d'un Leibniz en Europe à la même époque. Donc, effectivement, c'est très troublant. Époque où il y avait des échanges. Tout de même, il y avait des ambassades. Il y avait des. Bon, c'est bien que la relation diplomatique entre l'Europe et la Perse.
Qu'un Marcel Fissin puisse connaître un Sohrawardi, c'est normal et c'est explicable, mais qu'un Leibniz ou qu'un Descartes n'entendent pas parler d'un Mir Damad ou d'un Molla Sadra, c'est curieux.
C'est curieux. Alors, je pense que ça s'explique quand même assez largement, surtout cette réciprocité, cette ignorance réciproque. Je pense qu'elle s'explique quand même assez largement par les préjugés du temps, d'un côté comme de l'autre. Et ce sont les mêmes préjugés dont on parle aujourd'hui pour notre société. Le fait que beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs, des musulmans comme des non-musulmans, on peine à concevoir une philosophie en islam ou une philosophie islamique, parce que pour eux, tout simplement, les deux notions de philosophie et d'islam s'excluent. Ça fait partie quand même d'une mentalité largement répandue, encore une fois, chez les musulmans comme chez les non-musulmans. Et à l'époque, même de lire quelques extraits de textes aussi bien de philosophes européens que de ces philosophes iraniens pour voir quelle représentation on se faisait de l'autre civilisation. C'est d'ailleurs très frappant parce que ça rejoint la question de l'héritage grec. C'est-à-dire que des deux côtés, on s'imagine... Pour le coup, on s'imagine, là, au sens vraiment de l'imaginaire et pas de l'imaginal, on s'imagine être les seuls héritiers de cette philosophie grecque à l'origine, voilà, de la pensée philosophique et scientifique. Les Mir Damad ou Molla Sadra sont absolument convaincus d'être eux-mêmes les dignes représentants de Platon, Aristote, Pythagore, et ça leur paraît mais inconcevable que dans le monde chrétien, parce que le christianisme en plus était quand même associé à la plus grande irrationalité, il puisse y avoir de la philosophie. Et ça leur paraissait aussi impensable que ça paraissait impensable à des penseurs européens que l'on puisse penser philosophiquement dans le monde musulman du Fatum Mahometum, etc. Vous voyez,
qui faisait horreur donc, à Leibniz.
Voilà, voilà. Donc on a alors même que Leibniz par ailleurs était capable de penser le mazdéisme et la Chine. Donc il y a
et de l'autre côté, on se disait légataire et héritier des néoplatoniciens,
absolument.
Tous les scolars canons
voilà.
De Jean Blic, Porphyre
oui,
avant,
oui, oui. Ouais,
bien sûr Plotin
ouais.
Et ses
ouais.
Énéades. Pour revenir à une période plus contemporaine, mm-hmm. On a des gens comme Gilles Deleuze ou Félix
oui.
Guattari qui
oui.
osent poser la question, y a-t-il, peut-on parler de philosophie en dehors de l'ère IRE,
oui.
Et sur une longue ère d'ailleurs, européenne.
Ouais. Ouais, tout à fait. Alors c'est d'ailleurs je m'y réfère dans l'introduction parce que c'est un livre. Alors, qu'est-ce que la philosophie qui m'a marqué? Notamment, c'est un petit peu, c'est la petite histoire, mais quand j'étais professeur de philosophie et que je commençais à m'orienter vers l'islamologie, parce que justement c'était une question comment dire personnelle, de savoir si j'allais trouver de la philosophie en tant que telle entre guillemets ailleurs. Et effectivement, Gilles Deleuze et Félix Guattari définissent l'activité philosophique premièrement par la création de concepts. Création conceptuelle, on a évoqué le monde imaginal, on a évoqué le métatemps ou la création métatemporelle, on a des exemples illustres de création conceptuelle. Il parle d'un plan d'immanence qui est le plan d'immanence pré-philosophique, le plan sur lequel, enfin l'image de la pensée, plan sur lequel se déploie l'activité rationnelle philosophique. C'est aussi quelque chose que l'on rencontre ici, que ce soit le plan d'immanence, immanence justement de cette sagesse universelle ou de la révélation mohammadienne tout autant. Et puis Deleuze et Guattari parlent de personnages conceptuels qui sont voilà des figures pas un peu des figures imaginales d'ailleurs, des figures pas tout à fait évidemment concrètes mais qui ne sont pas non plus de pures abstractions et qui servent à penser, un peu comme le malin génie chez Descartes par exemple, un personnage conceptuel. Or on en a plein en fait dans ces textes, c'est une philosophie qui se déploie aussi, qui se développe aussi à travers des fictions comme le fameux homme qui plane de d'Avicenne,
l'homme volant
ou l'homme planant, voilà, qui est reprise par Molla Sadra au XVIIe avec un animal d'ailleurs. Donc c'est-à-dire parce que Molla Sadra explique que ça vaut aussi pour l'animal cette affaire-là.
tout comme le procès animal intenté contre l'homme. Par
dans les Juanes Safa, chez les Juanes Safa, les frères
fameuse
de la pureté,
épître hein. 22
ouais, ouais,
des,
ouais.
des frères
ouais.
de la pureté.
Je fais partie des absents de cette anthologie d'ailleurs. Non pas les Juanes Safa parce qu'ils y sont, mais cette épître, oui.
Et qui est d'une grande actualité
oui, oui, oui,
de
absolument.
Nos jours, si on met de côté le fait que le tribunal était présidé par un djinn. Mais bon,
oui, ce qui peut aussi être actuel d'ailleurs. Mais tout à fait. C'est d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de thèmes dont je voudrais souligner aussi l'actualité. Et que c'est pas, même s'il y a une histoire de la philosophie en islam aussi à travers ces pages dans l'organisation du livre, mais ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était voilà l'actualité. Des problèmes, des concepts, des thèses, des discussions qu'avaient ces penseurs, encore une fois qu'ils se nomment philosophes techniquement ou pas, dans ce contexte historique et civilisationnel.
Alors, question peut-être un peu à l'emporte-pièce, comme ça, s'agit-il d'une philosophie, à supposer oui. qu'il faille accoler l'épithète,
oui.
S'agit-il d'une philosophie islamique ou d'une philosophie arabe ? S'agit-il d'une réflexion et d'une cogitation en contexte islamique, et dans ce cas, il faut tenir compte des philosophes juifs et chrétiens, voire mazdéens,
oui, oui.
Si on prend le cas cette fois-ci des iranisants, des persanisants, et dans ce cas, on est dans un cadre civilisationnel et on pourrait parler de philosophie en islam avec grand T, et prenons le cas d'Ibn Gabirol ou de Maïmonide ou de Yahya Ibn Adi, par exemple, où là, il s'agit davantage de philosophes de confession islamique qu'ils ne mettaient pas en avant, mais qu'ils ne niaient pas non plus. Et donc, c'est toute la production pour l'humanité de cette catégorie de personnes.
Oui, merci de cette question, parce qu'effectivement, elle est importante. On lui a fait une large part dans notre introduction, et le titre même de la de l'ouvrage Anthologie bilingue de la philosophie en islam, il y a un choix qui a été fait. Alors pourquoi pas philosophie arabe, ça c'est le plus simple, parce que ni sur le plan linguistique, puisque précisément il y a une part de la philosophie qui s'est écrite en persan, ni encore moins sur le plan national, avec tous les guillemets qui s'imposent, la philosophie en question n'est stricto sensu arabe. Bon, de même d'ailleurs que de parler de philosophie iranienne, on a parlé tout à l'heure de la postérité d'Henri Corbin, et j'admets volontiers, d'ailleurs c'est écrit, hein, ce que nous lui devons, mais je parlerai pas d'islam iranien ou de philosophie iranienne, pour la même raison qui est que ni sur le plan linguistique, ni sur le plan national ou ethnique, ça n'a de sens. On sait que l'islam était une civilisation multi-ethnique, multinationale, multiconfessionnelle aussi, puisque voilà, vous avez parlé de la présence de juifs, de mazdéens, de chrétiens, etc. Donc voilà pour philosophie arabe. Alors philosophie islamique, moi j'avoue que je serais enclin en fait à utiliser le terme s'il était évident de nos jours que islamique renvoie justement à une idée de civilisation et pas seulement de religion. Bon, Henri Corbin pouvait encore écrire une histoire de la philosophie islamique à la fin des années 60.
Christian Jambé se pose la question.
Christian Jambé a répondu positif. Oui, enfin, effectivement, emploie là, et il s'en explique très très bien la notion de philosophie islamique. Bon, nous ne l'avons pas choisi à la fois, peut-être un peu bêtement, en raison de la connotation du terme islamique aujourd'hui, mais aussi parce que, comme vous le disiez, ça, même si on essaye de maintenir, enfin de. Et en plus, cette distinction entre civilisation et religion, finalement, elle est elle-même très critiquable. Donc, parler d'une philosophie islamique aurait renvoyé cette pensée à un projet confessionnel, comme Étienne Gilson parle de philosophie chrétienne, mais voilà, là on aurait eu un mauvais équivalent, une fausse équivalence.
C'est pas tout à fait le pendant de l'idée d'Étienne Gilson.
Non, c'est ça, c'est pas du tout. Vous avez mentionné des philosophes juifs et chrétiens en terre d'islam. Ils font partie des absents d'ailleurs de cette anthologie, on s'en excuse, mais on en parle dans l'introduction. En revanche, il y a un philosophe illustre d'ailleurs, enfin surtout comme médecin, qui est Abou Bakr ibn Zakaria Razi, qui était un libre penseur, et qui est attaqué d'ailleurs par maints théologiens musulmans pour son irreligion, son opposition à l'idée même de prophétie, etc. Donc, qualifier Abou Bakr ibn Zakaria Razi de représentant de la philosophie islamique aurait pour le coup été un petit peu problématique et presque désobligeant à son égard. Donc, philosophie en islam, ça peut apparaître comme un peu comme une solution de compromis, je dirais, mais en même temps, je pense qu'elle est juste. Philosophie en islam, alors, en utilisant l'artifice de la langue française avec la majuscule pour désigner la civilisation dans son ensemble. En même temps, je pense que évidemment la civilisation de l'islam est inséparable de la religion de l'islam, et on n'a pas une séparation du religieux et du séculier en islam comme on peut la rencontrer en Occident moderne. Mais voilà, c'est une philosophie en contexte islamique, aussi bien littéraire, poétique, culturel, juridique, théologique, aussi des pratiques religieuses, on n'en a pas parlé, mais c'est pas seulement les articles de foi, disons, ou le rapport au texte coranique, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a des textes qui sont de l'exégèse, de l'herméneutique du Coran, mais ce sont aussi les pratiques de la religiosité musulmane qui ont pu inspirer les philosophes, et pas seulement peut-être faire partie de leur vie quotidienne.
Merci infiniment. Merci, cher Mathieu Terrier,
merci
d'être venu nous présenter cette anthologie bilingue de la philosophie en islam. À l'oreille, nous ne pouvons pas distinguer la majuscule de la minuscule du i d'islam, mais il s'agit des contextes islamiques. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne d'ailleurs, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bruno Mourlan. Et la réalisation est assurée par François Connac.